Laudetur Jesus Christus.
La Cisjordanie est un champ de bataille. L'ONU s'inquiète pour les Palestiniens du nord du territoire, mais aussi de Gaza, où les besoins humanitaires restent immenses. C'est ce que nous verrons. Cette nuit, le Hamas restituera le corps de 4 otages enlevés le 7 octobre. Israël, qui enterrait aujourd'hui les 3 membres de la famille Bibas. Kiev et Washington en voie de trouver un accord sur l'exploitation des minerais ukrainiens. Les Européens s'en inquiètent, nous expliquera notre correspondant à Bruxelles. Nous irons aussi à Sarajevo. Le dirigeant serbe de Bosnie a été condamné tout à l'heure à 1 an de prison pour non-respect du représentant international pour la Bosnie. Et puis enfin, le pape François poursuit sa thérapie à l'hôpital Gemelli de Rome.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. C'est la 4e, la plus longue hospitalisation du pape depuis le début de son pontificat. Le Saint-Père est depuis 13 jours à l'hôpital Gemelli pour une double pneumonie. Son état est stationnaire. Assis, il poursuit ses thérapies. On attend ce soir le résultat d'un scanner de contrôle programmé hier par ses médecins. François n'a pas reçu de visite ce mercredi, mais il a repris, même très partiellement, ses activités. Il a ainsi modifié la catéchèse sur l'enfance de Jésus qu'il aurait dû lire ce mercredi à l'audience. Une catéchèse publiée à retrouver sur notre site Internet. Et le Vatican a par ailleurs fait savoir que François a institué par chirographe une commission de 5 membres dont la tâche sera d'inciter via des campagnes de sensibilisation les fidèles, les conférences épiscopales et d'autres potentiels bienfaiteurs à faire des donations pour aider la mission et les œuvres de charité du siège apostolique. Plus de détails là encore sur vaticannews.va. La Cisjordanie est un champ de bataille. 40 000 personnes ont été forcées de fuir leur maison dans le nord du territoire occupé. Plus de 50 personnes ont été tuées depuis le mois de janvier, depuis une opération d'envergure renforcée encore la semaine passée par l'armée israélienne. Le chef de l'UNRWA dénonce ce soir une propagation alarmante de la guerre de Gaza. Et puis à Gaza, 6 nourrissons sont morts de froid ces derniers jours. Malgré le retour des livraisons d'aide, le quotidien des Gazaouis reste très difficile. C'est ce qu'a expliqué le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, à notre correspondante à Jérusalem-Est, Varélie Ferron, a assisté à son point presse hier.
Malgré le cessez-le-feu, Israël poursuit sa guerre contre les populations civiles de la bande de Gaza sous diverses formes. Les familles continuent d'être la cible régulièrement de tirs et de bombardements. Les lourdes entraves posées par la puissance occupante à l'entrée de produits essentiels et d'équipements médicaux font également des victimes parmi les personnes blessées ou atteintes de maladies graves, ainsi que les enfants. 6 nourrissons sont ainsi morts de froid ces derniers jours et la vie de milliers d'autres est en danger, comme l'a expliqué le responsable des services d'urgence, Mohamed Abou Afsh.
Les maisons sont détruites, les caravanes n'entrent pas, il n'y a aucun moyen d'avoir chaud. Même les couvertures et les vêtements d'hiver, qui sont indispensables pour que les enfants et les femmes aient chaud, n'entrent pas.
Ces entraves à l'entrée de l'aide constituent des violations du protocole humanitaire du cessez-le-feu, de même que les entraves posées à l'évacuation des malades et des blessés. Selon l'OMS, seuls 900 patients sur 14 000 ont pu être transférés pour être soignés à l'étranger ces dernières semaines. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Gaza a fait l'objet ce mercredi de frappes israéliennes. Plusieurs postes permettant l'envoi de projectiles ont été visés par Israël après l'envoi d'un tir justement plus tôt ce matin. Mini-violation du cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier dernier après 15 mois de guerre. Depuis cette date, des échanges d'otages enlevés le 7 octobre de prisonniers palestiniens ont lieu toutes les semaines. Ce sera encore le cas cette nuit, sans cérémonie publique ni mise en scène macabre. Le Hamas promet, pour garantir la libération de 600 Palestiniens, de remettre 4 corps d'otages à Israël. Israël, où des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées le long des routes aujourd'hui sur le parcours du cortège funéraire conduisant les dépouilles de Shiri Bibas, ses enfants Ariel et Kif, morts en captivité lors de leurs funérailles près du kibboutz où ils avaient été enlevés. Seuls les discours de leurs proches ont été diffusés. Ces derniers ont demandé une enquête afin que tous les décideurs israéliens assument leurs responsabilités. Après l'Arabie Saoudite et la Turquie, le nouveau dirigeant syrien Ahmed al-Sharaa était en visite aujourd'hui en Jordanie, un pays qui accueille plus de 2 millions de réfugiés syriens. Il a rencontré le roi Abdallah II pour parler de sécuriser leurs frontières, 375 kilomètres, afin de limiter la contrebande d'armes et de drogue. C'est l'un des camps de déplacés les plus grands au monde, celui de Zamzam dans la région du Darfour Nord au Soudan. Il abrite 500 000 de personnes en proie à la famine. Aujourd'hui, en raison des combats entre l'armée et les forces de sécurité rapides en guerre depuis avril 2023 dans le pays, l'ONU a décidé de suspendre sur place ses activités. Une décision prise il y a deux jours par MSF, la correspondance d'Augustine Passy.
C'est un nouveau coup dur pour le million de Soudanais qui ont trouvé refuge dans ce camp situé au nord d'Darfour. Ce mercredi, le Programme alimentaire mondial déclare quitter Zamzam en raison de l'escalade de la violence de ces deux dernières semaines. Il y a deux jours, l'ONG Médecins sans frontières a également annoncé son départ. Arrêter nos activités en pleine catastrophe qui s'aggrave à Zamzam est une décision déchirante, regrettait le chef de mission Yahya Khalilal. Ces départs sont causés par les attaques répétées menées par les forces de soutien rapide dans le camp et aux alentours. Or, la situation humanitaire est déplorable à Zamzam. C'est la première zone où la famine a été déclarée dès août 2024. De nouveaux déplacés arrivent chaque jour pour fuir les violences perpétrées à El Fasher, la dernière grande ville du Darfour qui résiste à l'armée, mais aussi dans les villages voisins. Hier, j'ai échangé avec Souhad Youssif, qui m'expliquait que certains soirs, elle couche ses 6 enfants sans avoir rien mangé de la journée. Nous ne sommes pas en sécurité à Zamzam. La semaine dernière, ma fille s'est cassée la jambe en courant pour échapper à un bombardement, témoigne cette mère qui compte parmi les plus de 12 millions d'individus jetés sur les routes à cause de la guerre qui dure depuis bientôt 2 ans. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
L'Ukraine est entrée dans sa 4e année de guerre et revendique une contre-attaque réussie contre l'armée russe près de la ville de Pokrovsk dans l'Est, là où se situent d'importants minerais de charbon notamment. Si cette victoire était confirmée, ce serait une bonne nouvelle. Elles se font rares. Au moins 7 personnes ont été tuées dans des frappes russes aujourd'hui, dont une journaliste ukrainienne. La Russie qui bombarde et mène en parallèle des discussions de paix avec les États-Unis. Les Européens tenus à l'écart tentent de se mobiliser. Le Premier ministre britannique arrive à Washington. Le président français en revient. Emmanuel Macron qui a rendu compte aux 27 de son entretien avec Donald Trump lors d'une visioconférence ce matin. Pierre Benazé.
Après les deux réunions à Paris avec la plupart de ses homologues et les membres européens de l'OTAN, le président français était en quelque sorte mandaté pour asseoir aux yeux de la Maison-Blanche la nécessité pour les Européens d'être à la table des négociations. Dans ce contexte, l'accord américano-ukrainien à venir pour l'exploitation des matières premières critiques les intéresse au plus haut point. Le refus initial de ce qui était en fait une mainmise des États-Unis sur 500 milliards d'euros de ressources minières ukrainiennes avait provoqué la fureur de Donald Trump. Il avait traité Volodymyr Zelensky de dictateur. À Washington, Emmanuel Macron a publiquement contredit Donald Trump sur l'importance du soutien financier des États-Unis à l'Ukraine en soulignant que les Européens avaient financé 60% du soutien militaire et au même moment, le marché proposé par les Américains a été ramené à 90 milliards d'euros. Pendant ce temps-là, les Européens cherchent toujours à exister, à faire valoir leurs intérêts. Ils proposent eux aussi un accord sur les matières premières, mais un accord à l'européenne et donc beaucoup plus bénéfique pour l'Ukraine, selon eux, d'autant que le Kremlin envisage maintenant de vendre aux États-Unis les ressources du sous-sol des régions ukrainiennes sous occupation russe, comme la Crimée ou les oblasts de Luhansk et Donetsk. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
Et concernant ces minerais, le président Donald Trump, président américain, annonce la venue du président Zelensky ce vendredi à Washington pour finaliser l'accord cadre sur ces ressources naturelles ukrainiennes. L'Europe de demain sera-t-elle verte sous la pression d'industriels de Paris, de Berlin, mais aux grandes dames des ONG? La Commission européenne revient sur son plan vert. Elle a proposé aujourd'hui la modification de plusieurs textes très ambitieux, dont certains adoptés il y a à peine quelques mois. On parle par exemple du droit de vigilance imposée aux industriels, de la publication de leurs données de durabilité. La présidente de la Commission parle de simplification des procédures, mais Ursula von der Leyen promet qu'elles n'affecteront pas les objectifs de l'UE, comme la neutralité carbone en 2050. La révision de ces textes sera toutefois soumise à l'approbation du Parlement européen et des États membres. Et dans l'actualité, à Bruxelles, demain, les pays européens se réunissent au chevet de leur acier à Paris. La sidérurgie emploie plus de 300 000 personnes en Europe et s'inquiète de la hausse prochaine de 25% des droits de douane décrétée mi-février aux États-Unis. Elle doit entrer en vigueur le 12 mars. Le président de l'entité serbe de Bosnie, Milorad Dodik, a été condamné aujourd'hui à 1 an de prison, 6 ans d'interdiction de participation à la vie politique de son pays par le tribunal supérieur de Bosnie-Herzégovine. Milorad Dodik est reconnu coupable de ne pas avoir respecté les décisions du tribunal constitutionnel de Bosnie, d'avoir ignoré les injonctions du haut représentant international pour la Bosnie. Et puis en Bosnie, 3 personnes ont été arrêtées aujourd'hui pour trafic d'êtres humains. Plusieurs enfants ont pu être secourus par la police. Et puis enfin, attentat de la basilique de Nice, c'était en 2020. La perpétuité incompressible a été requise contre l'assaillant Brahim Aoussaoui. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain matin à 8h30 pour un point complet sur l'actualité. Et n'oubliez pas, une session de prière est ce soir organisée place Saint-Pierre à 21h.